Saluton.
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 Saluton. Saluton.
Eh bien, saluton, Ange. Saluton, Claude. Lors de la dernière émission, tu nous as donc fait découvrir un aspect méconnu de la personnalité et de l'œuvre de Jules Verne, à savoir que c'était un espérantiste convaincu. Et donc, tu as d'autres extraits à nous proposer aujourd'hui.
Effectivement. Alors, je vais juste faire un très court résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Donc, Jules Verne, disons, l'espéranto est arrivé vers la fin de la vie de Jules Verne. Hein, et il était tellement enthousiasmé par cette idée qu'il a voulu écrire un roman dont l'espéranto serait au cœur de cet écrit. Et donc, il a commencé ce roman, il a écrit les 5 premiers chapitres, et malheureusement, il est mort à ce moment-là, il a laissé cette œuvre inachevée. Donc, nous avons commencé la dernière fois à lire quelques extraits de ce roman, donc nous continuons aujourd'hui, et vous allez voir l'enthousiasme et la ferveur espérantiste de cet écrivain si connu qu'est Jules Verne.
Très bien, merci donc. Toi, Ange. Oui.
Vous tous qui m'écoutez, vous le comprenez comme si je vous parlais votre langue d'origine, parce qu'il est formé de radicaux empruntés aux divers langages. Cela n'explique-t-il pas que depuis une vingtaine d'années, il ait pu s'imposer au nouveau comme à l'ancien continent ? Et ne savez-vous pas que rien qu'en Europe, on parle couramment, en Autriche, en Hongrie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, en Bohême, en Bulgarie, en Danemark, en Finlande, en Suède, en Norvège, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Russie, en Moravie, en Portugal, en Turquie. Et vous imaginez qu'il n'a pas eu de peine à traverser les mers ? Voyagez en Amérique, en Afrique, en Océanie, et vous trouverez partout des espérantistes pour comprendre quand vous parlez l'espéranto. L'espéranto, c'est le plus sûr, le plus rapide véhicule de la civilisation. Ainsi s'exprimait Nicolas Vanhoef. Et donc ensuite, Jules Verne rentre un petit peu plus dans le détail. Il y a lieu d'observer d'ailleurs que l'étude de l'espéranto ne présentait aucune difficulté de prononciation ou de mémoire. On l'apprend comme l'on respire, s'il est permis d'employer cette expression un peu vulgaire. En 10 leçons, les élèves se trouvent en état de converser les uns avec les autres. Il a même paru une brochure intitulée « L'espéranto en 10 leçons ». Alors, je fais une petite parenthèse ici, Claude, puisque, en fait, « L'espéranto en 10 leçons », c'est un ouvrage qui a été écrit par, justement, Théophile Carte, dont nous avons déjà parlé précédemment, mmh. et dont Jules Verne a eu la chance d'écouter une conférence.
D'accord.
Donc je continue. Aussi, ne doit-on pas s'étonner si, à l'époque actuelle, le nombre de ses adhérents dans le monde entier dépasse 100 000. On peut préciser, Claude, que quand Jules Verne parle de 100 000 adhérents dans le monde entier, on peut dire qu'actuellement... c'est loin de la vérité, puisque Jules Verne parlait à son époque, c'est-à-dire quand il a écrit ce roman en 1903-1904.
C'était un petit peu avant le congrès de Boulogne, donc de 1905.
C'est ça, c'était avant le premier congrès mondial d'espéranto qui s'est déroulé en France.
D'accord.
Et donc actuellement, on sait qu'il y a beaucoup plus d'espérantistes autour du monde. Non ?
Alors, ce nombre est toujours aussi difficile à évaluer, mais selon les estimations les plus pessimistes, on va dire au moins 1 million de locuteurs, et les plus optimistes...
Locuteurs, c'est donc des gens qui parlent la langue.
Voilà, qui l'ont apprise et qui l'ont parlé au moins à une époque de leur vie, de 1 à 10 millions, on va dire. Bon, soyons raisonnables, disons 1 à 2 millions.
Oui, même il y a des estimations plus optimistes qui parlent de 10 millions de gens qui utilisent plus ou moins l'espéranto. Donc, Jules Verne continue son exposé. Donc, je cite à nouveau. Il y a d'abord lieu d'observer que l'espéranto est un idiome simple, flexible, harmonieux, se prêtant également à l'élégance de la prose et à l'harmonie du vers. Il est capable d'exprimer toutes les pensées et même les sentiments les plus exquis de l'âme. En outre, par ses éléments, il est la langue internationale par excellence. L'idée maîtresse qui a présidé à sa formation, c'est le choix des racines en proportion de leur internationalité, c'est-à-dire élus au suffrage universel.
Merci Ange. Nous poursuivrons avec toi lors de la prochaine émission l'évocation de ce sujet qui nous touche particulièrement, Jules Verne et l'espéranto. C'était Festeno, festin, chanté par Esperanto Desperado. Ce groupe est international, il vit au Danemark, mais il est composé de Danois, Polonais et Bosniaques, réunis par l'espéranto. Ce groupe s'illustre dans le pop-rock, le ska, le reggae. L'album s'intitule Brocantajoy, c'est-à-dire bric-à-brac, occasion, bref, tout ce qui se vend dans une brocante. Nous retrouvons maintenant nos amis Laurence, Roland et Véronique pour la leçon d'espéranto.
Les personnes maintenant. Kio estas knabo? Kio estas knabo?
C'est un enfant.
Yes. C'est un garçon.
Knabo, c'est un garçon. Oui.
Voilà.
Garçon, garçonnet.
D'accord. Et on peut dire knabo en espéranto, knabo
estas homo.
No? Knabo estas homo, très bonne. Donc ce mot homo voudra dire non pas un homme, mais plus généralement un être humain, une personne ou un être humain. En espéranto, il existe donc le mot homo pour être humain, persono aussi pour personne. Et comment dit-on un homme?
Viro.
Viro. Que l'on retrouve dans l'adjectif viril par exemple, donc là ça désigne effectivement l'homme, et une femme?
Virino.
Virino. Donc nous avons appris à féminiser, dans la leçon précédente, nous avons appris à féminiser les mots, donc viro, virino. Comment dit-on à un frère?
Frato.
Frato, et donc une sœur?
Fratino.
Fratino, très bonne. Le père. Patro. Et donc la mère.
Patrino.
Patrino. Un monsieur.
Signoro.
Signoro. Mm-hmm. Une dame.
Signorino.
Très bonne. Signorino. Avec des exemples d'animaux. Cevallo.
Cevallino.
Cevallino pour la jument. Cevallo le cheval, cevallino pour une jument. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Cato, un chat, une chatte.
Gattino.
Yes. Hundo, un chien.
Hundino.
Une chienne.
Mousso.
Oui, pourquoi pas. En français, quand on dit une souris, est-ce qu'il s'agit d'une souris mâle ou d'une souris femelle?
On ne sait pas.
On ne le sait pas.
Là, est-ce qu'on peut, on peut voilà. pas dire
moussino. Moussino. Donc, en fait, mousso. Alors, prenons l'exemple de la souris. En fait, je pense que ça sera plus facile à comprendre. Pour... Prenons l'exemple du cheval, parce que tous les mots français existent. Les mots correspondants existent en français. Cevallo, ça veut dire un cheval. Mais en réalité, c'est plutôt l'espèce cheval en tant que telle. Ça peut être un cheval au masculin ou au féminin. Donc, comment dit-on une jument?
Cevallino.
Cevallino. Là, on précise que c'est un cheval femelle. Et comment dit-on un cheval mâle? Le mot français existe, c'est un étalon. Oui. Eh bien, on ajoute le préfixe vir. Donc, vir cevallo, c'est l'étalon, c'est le cheval mâle.
Viril encore.
Oui, ben oui.
Encore viril, oui. C'est-à-dire que le mot viro, l'homme, peut servir de préfixe, mais alors vous pouvez le coller ce préfixe devant n'importe quelle racine espérantiste. En tout cas, il faut évidemment que...
Le mot existe.
Que, oui, que, qu'il y ait un sens. C'est-à-dire... On parle du sexe des anges, mais là, nous allons nous restreindre au sexe des animaux. Donc, en français, quand on dit une souris, ça peut très bien être une souris mâle ou une souris femelle. Mais si je veux préciser que j'ai attrapé une souris mâle, je dirais vir musso. Et si j'ai attrapé une souris femelle, moussino. Voilà. Eh bien, chercher les équivalents en français, je ne les connais pas. Je ne crois pas qu'il existe dans le dictionnaire. Voilà.
C'est le côté Lego de l'espéranto, quoi.
Exactement, c'est le côté Lego. Alors, si on a l'esprit un tout petit peu scientifique, on apprécie cette logique et on s'amuse à inventer des mots qui n'existent pas en français. On vient de le faire avec virmuso et musino. Quio estas libro?
Libro estas objecto. Objecto.
Très bonne. Objecto. Yes. Alors, libro, c'est un livre. Et Laurence vient de nous dire, libro estas objecto. Un livre est un objet. Effectivement, tu t'es reprise parce que le J, lorsqu'il ne porte pas de chapeau, c'est un I bref. Objecto, c'est le cas ici. Et s'il porte un accent circonflexe, on va le prononcer comme en français. Dans le mot jardin, enfin c'est le J que nous connaissons bien en français. Donc, libro estas objecto. Je peux dire par exemple, libro estas sur la table. Un livre est sur la table. Ĉu taso estas objecto?
Yes, taso estas objecto.
Yes, tasso, c'est une tasse. Donc, effectivement, une tasse est aussi un objet. Une petite pause?
Voici une petite pause musicale avec Maurice Bénin, Maristoi de la Terre, marin de terre.
Yarideto. Via rigarda, vivo pausa, viva rencontro. Jens quisicias nova refren, chiel la roc, el spruzzas la fonte. Via mano tremas, jen quisat cec flugo, cai su scioltro via rebril, de ciel blu. Via mano tremas, jen quisat cec flugo, cai su scioltro via rebril, de ciel blu. E il libro d'incil manta che l'ombro de castanarva
Ustrono de amicets, caila cement, de tac flamanta. Construo tarev, spirata cianim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo. Construo tarev, spirata cianim, fervoro del magre gioia, sulla voio della stelo.
En 40 ans de chansons, Maurice Bénin a réalisé plus de 30 disques ou CD. Il a chanté l'un d'entre eux en espéranto en 2001 et il s'intitule Inspire.
Pour augmenter un petit peu le vocabulaire, nous avons reçu aujourd'hui le journal Esperanto Info, celui d'ailleurs qui a attribué une étoile verte à Trélissac au mois de décembre. Et sur la page centrale, nous avons quelques objets des découverts que l'on peut donc mettre sur la table. Allez, on va choisir les uns et les autres quelques exemples, pas forcément tous ceux de la page, mais peut-être parmi les exemples les plus simples. Alors, quio estas sur tiu tablo? Qui y a-t-il sur cette table? Tiu tablo pour dire cette table. Laurence.
Estas telero.
Telero, c'est
l'assiette.
Une assiette, très bien. Roland.
Estas bouchetouco.
Bouchetouco, oui.
C'est une serviette.
C'est une serviette. Alors, ben, à ce propos, voilà déjà un premier mot composé. Bon, c'est intéressant de commencer dans cette première leçon de donner un mot composé. Quio estas bucho?
La bouche.
La bouche. Quio estas tuco? Tuco.
C'est un tissu.
Oui, c'est un mot général pour désigner un linge. Donc, bouche, tuco, c'est un linge pour la bouche. Donc, pour nous, le mot français existe, c'est une serviette.
De table.
De bouche. C'est une serviette, donc pour s'essuyer la bouche. Alors, effectivement, cette serviette, en général, on la pose sur une table. Mais remarquons déjà avec ce premier mot composé, bouche tuco, que le mot principal c'est tuco, bouche tuco, estas tuco. Une serviette?
Non, pas tuco, t'as dit.
Bouche tuco, estas tuco.
Tuco, pourquoi tuco?
Une serviette, oui. Une serviette c'est un linge.
Oui, oui.
Donc bouche tuco, estas tuco. Et si je veux préciser. Avec le mot bucho maintenant, bouche tuco, estas tuco por bucho. C'est un linge pour la bouche. Donc en espéranto, on ne multiplie pas les racines inutiles, puisqu'une serviette peut être appelée bouche tuco à l'aide de deux racines connues de tous les espérantophones, eh bien, on ne crée pas une racine inutile. Bouche tuco veut dire serviette.
Et ça s'écrit en un seul mot.
Et ça s'écrit en un seul mot. Alors, très bonne remarque. En fait, il y a aussi une tolérance lorsque vous créez des mots composés. Et en fait, on peut en créer pratiquement à l'infini. Eh bien, soit ce mot composé est un mot très courant, employé par beaucoup de personnes. Et dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle l'élision du O, de bucho. Bucho est devenu bouche. Et on va donc accoler bouche avec tuco, bouche tuco. Mais on a tout à fait le droit de prononcer bucho tuco. Et on peut même écrire un trait d'union pour montrer qu'on a bien affaire à un mot composé. Bucho, trait d'union, tuco. Voilà. Donc cette serviette pourra très bien être écrite dans un texte ou prononcée bucho, trait d'union, tuco. On raccourcit un peu bucho tuco, sans trait d'union, et on raccourcit en faisant l'élision du O, bouche tuco.
Et les trois façons sont correctes.
Oui, c'est une tolérance de l'espéranto, et selon les auteurs, on aura plutôt tel ou tel choix. Voilà. En tout cas, tous les espérantistes du monde vous comprendront selon ces trois formes d'écriture. Véronique, un exemple de la page.
Tranquillo está sur la table.
Yes, tranquillo.
Tranquillo.
Yes. Alors, tranquillo, on peut aussi considérer que c'est un mot composé. Ilo est ici en suffixe, mais ilo veut dire outil. Ilo. Et tranchi veut dire couper.
C'est un outil pour couper.
C'est un outil pour couper. C'est donc
un couteau.
C'est donc un couteau.
C'est donc oui.
Voilà. L'espéranto, Roland, tu l'as tout à fait bien comparé, enfin très judicieusement comparé à un Lego. Ouais. Effectivement, on ajoute des éléments les uns aux autres. Alors il y a l'élément principal qui est la racine, mais on peut y ajouter un préfixe, on peut lui ajouter un ou plusieurs suffixes, et puis même une terminaison. Alors, je ne suis pas linguiste, mais je préfère employer des mots simples, mais les linguistes parlent de phonèmes et, en désignant les différents éléments qu'on peut ajouter les uns aux autres.
Alors, la couleur, c'est la même composition aussi, c'est...
Culero, alors couler, c'est la racine. Je ne crois pas qu'on puisse la scinder, celle-ci. Mm-hmm. Et o, c'est la terminaison, nous disant c'est un substantif. Dans toute cette page, nous avons différents... enfin, tous les substantifs se terminent par deo. Et donc, Véronique, effectivement, tu me montres culereto. Mm. Alors là, effectivement, il y a un suffixe et. Le O de culero est remplacé par eto, qui veut dire
petit.
Petit. Donc, c'est une petite cuillère. Le mot cuillerette n'existe pas, à ma connaissance en français, on dit plutôt petite cuillère. Eh bien, culereto, ça existe donc en espéranto en un seul mot. Et le suffixe augmentatif, eto, c'est diminutif. Le suffixe augmentatif, c'est
EG.
Non. Oui, E, G,
Culerego.
Ego. Très bien, culerego, très bien.
C'est louche, là.
Ça fait, oui,
c'est
louche,
louche.
Très bien, Roland, c'est une affaire louche,
oui,
c'est bien ça.
Culerego.
Culerego, c'est bien une louche. Voilà, alors c'était effectivement un bon exercice sur l'exemple de cette cuillère, d'avoir, d'affubler la racine d'un suffixe diminutif, eto, culereto, petite cuillère, et d'un suffixe augmentatif, ego, culerego, grosse cuillère, et en fait, pour nous, français, c'est une louche.
Eh bien, nous retrouverons nos amis dans la prochaine émission, dans la prochaine séquence, correspondant à la première leçon du Yunul Curso, Unu a lezione. Nous les retrouverons pour quelques exercices. Je vous rappelle que nous vous avons proposé un support écrit pour écouter nos émissions. Vous pouvez nous téléphoner au 05 53 54 49 71 ou bien nous envoyer un courriel à esperantoperigord@yahoo.fr. Esperanto Périgord sans accent et en un seul mot. À très bientôt donc. Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Gis baldau.
Just bad.
Just